Bruno Retailleau veut reprendre le contrôle de l'espace public aux narcotrafiquants. Le ministre de l'Intérieur a présenté son plan à Grenoble 48 heures après une attaque à la grenade visant un bar associatif. La guerre en Ukraine et Emmanuel Macron met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Lors d'une interview au Financial Times, le président se demande si la Russie est prête à un cessez-le-feu durable. La rentrée scolaire, c'est ce lundi. 62 660 élèves sont attendus dans les établissements du territoire. Une rentrée 2025 particulière que nous vous détaillons dans ce journal. L'OPT dans le viseur de la Chambre territoriale des comptes. La CTC a réalisé un contrôle de l'Office des postes et télécommunications et plusieurs recommandations ont été émises. Le sport, Justine Brezaz-Boucher décroche un titre de championne du monde de biathlon, mais aussi du football, avec le début de la 22e journée de Ligue 1. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité en métropole, Bruno Retailleau était à Grenoble moins de 48 heures après l'attaque à la grenade d'un bar. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'une attaque inédite avec une arme de guerre. L'assaillant court toujours à l'heure où nous parlons. Et dans ce contexte, Bruno Retailleau a détaillé son plan contre le narcotrafic. Il annonce que 25 villes vont faire l'objet de mesures particulières pour reconquérir l'espace public contre les trafiquants. Jean-Luc Bougeon a suivi le ministre de l'Intérieur pour Europe 1.
Oui, c'est ce que Bruno Retailleau appelle la nouvelle doctrine de l'État en matière de lutte contre le narcotrafic. Il veut concentrer les efforts sur 25 villes où la situation s'est particulièrement dégradée ces dernières années. Il ne veut plus, par exemple, de ces quartiers où les trafiquants font la loi. L'État doit reconquérir l'espace public, tout l'espace public, explique le ministre de l'Intérieur.
Sur la voirie, dans les transports, dans les halls d'immeubles, mais aussi avec des fouilles dans les parties communes, dans les caves. Pour chercher de la drogue, pour chercher des produits de contrebande, des cigarettes de contrebande, pour chercher des armes, des munitions et des billets, on reprendra possession de façon implacable de l'ensemble de l'espace public.
Tous les services de l'État vont donc être mis à contribution, les forces de l'ordre, la justice, également l'administration, pour aller frapper les trafiquants au portefeuille, notamment dans certains commerces qui servent de paravent pour blanchir l'argent de la drogue.
On s'attaque à l'écosystème, en allant chercher les patrimoines, par exemple sur le blanchiment. On va cribler les commerces, faut m'expliquer. Comment peut-on avoir dans une boucherie 800 clients par jour ou parfois dans certains commerces qui peuvent afficher des chiffres d'affaires de plusieurs millions d'euros. Et le delta, c'est le blanchiment.
Et Bruno Retailleau de citer précisément le bar associatif de Grenoble où a eu lieu l'attaque à la grenade mercredi soir. Un bar qui était sous le coup d'une fermeture administrative qui devait intervenir sous peu car le comité antifraude départemental y avait découvert récemment que le gérant se livrait à un trafic de cigarettes. C'est ce type d'agissement qui gangrène les quartiers auquel nous voulons mettre fin, a déclaré le ministre de l'Intérieur.
La police recherche toujours activement l'auteur de l'attaque qui a fait 15 blessés, dont 6 grièvement. À l'international, quel avenir pour l'Ukraine ? Question au cœur de la conférence sur la sécurité qui s'est ouverte hier pour nous à Munich. Ce rendez-vous en Allemagne intervient alors que le président américain s'est mis d'accord avec son homologue russe Vladimir Poutine pour ouvrir des négociations sur l'Ukraine. Emmanuel Macron lui a immédiatement répondu dans une interview accordée au Financial Times. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le président français met en garde contre une paix qui serait une capitulation en Ukraine, référence aux propos du nouveau secrétaire d'État américain à la Défense, confirmé ensuite par Donald Trump, recommandant aux Ukrainiens d'arrêter de croire qu'ils pourront un jour intégrer l'OTAN ou qu'ils pourront récupérer les territoires conquis par les Russes depuis 2014. Emmanuel Macron veut donc marquer son incompréhension face à ce choix du locataire de la Maison-Blanche, qui revient à ses yeux à aller dans le sens du Kremlin avant même le début des négociations. Donald Trump a pour l'instant ont ouvert la porte à une participation directe de Kiev, Washington et Moscou aux discussions de paix, sans évoquer pour autant de rôle spécifique pour les Européens. C'est pourquoi Emmanuel Macron insiste sur la nécessité pour les 27 d'être également à la table des négociations et au-delà d'être intégré à la future architecture de sécurité du continent. Une manière de rappeler qu'il a été le premier chef d'État à évoquer l'envoi de troupes au sol en Ukraine pour garantir la sécurité du pays en cas de cessez-le-feu avec la Russie.
Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs exprimé sur scène à Munich lors de la conférence sur la sécurité. Le président ukrainien juge impensable et inacceptable toute négociation sur un cessez-le-feu dans son pays, simplement entre la Russie et les États-Unis, sans Kiev ni les Européens. Il s'est dit ouvert à des pourparlers avec Vladimir Poutine, mais pas avant l'adoption d'une position commune entre l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés. Le président ukrainien s'est également entretenu avec le vice-président J.D. Vance. Il a assuré que Washington cherchait, je cite, « une paix durable ». En bref, le pape François hospitalisé à Rome pour une bronchite. Le souverain pontife de 88 ans, qui a accumulé les problèmes de santé ces dernières années, souffre actuellement d'une infection respiratoire. Des examens ont été effectués et le pape François a entamé une thérapie pharmacologique à l'hôpital. Les audiences et rencontres de ces prochains jours ont été annulées et c'est un cardinal qui le remplacera lors de la messe dimanche, le temps des soins. L'actualité sur le territoire, c'est Sonia Backès qui était hier midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle rentrait tout juste de Paris où elle conduisait la délégation loyaliste pour les discussions bilatérales avec l'État, Michael Juneski.
Sonia Backès regrette qu'il n'y ait pas eu de rencontre à trois à Paris et elle fait le constat que les indépendantistes UCFLNKS ne veulent pas parler à leurs partenaires calédoniens. Elle a aussi été interrogée sur la petite phrase de Manuel Valls qui a suscité une certaine émotion en Nouvelle-Calédonie. Dans un article du journal Le Monde, le ministre des Outre-mer déclare que la trajectoire est celle qui va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière. Sonia Backès regrette deux choses concernant cette déclaration.
D'abord, je regrette qu'il n'ait pas dit ça quand on l'a vu. Il a dit des choses qui nous ont plu, d'autres moins, mais il n'a pas dit ça. Je le regrette parce que je pense que c'est toujours dommage de dire à la presse des choses a posteriori qui n'ont pas été dites aux délégations, en tout cas pas à la nôtre. Et ensuite, je regrette cette lecture de l'accord de Nouméa qui n'est absolument pas conforme à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il dit qu'effectivement, on a une trajectoire qui est effectivement celle de la souveraineté partagée, mais cette trajectoire, elle s'arrête sur les trois référendums. Et en fait, il est très clairement dit dans l'accord de Nouméa que la réponse positive, donc un oui à l'indépendance, équivaudrait, je cite, à la pleine souveraineté. A contrario, il n'est pas question de pleine souveraineté dès l'instant où les Calédoniens ont décidé de dire non à l'indépendance. Donc cette phrase de Manuel Valls qui sous-entendrait que l'accord de Nouméa mène inéluctablement à la pleine souveraineté est fausse.
Et la chef de file des loyalistes dénonce ce qu'elle appelle les ambiguïtés permanentes de l'État pour essayer d'hameçonner les indépendantistes. Une interview de Sonia Backès qui sera rediffusée dans son intégralité demain soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez également la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Et ce matin, c'est le club politique de Radio Rythme Bleu qui sera rediffusé à partir de 11h. Au sommaire, le bilan des discussions bilatérales et les déclarations de Manuel Valls, évidemment. Les consultants du club se sont aussi interrogés sur ce qu'il faut attendre de l'avis du ministre des Outre-mer et ils sont revenus sur le forum économique qui se déroulait samedi dernier. Ils ont enfin analysé les débuts du nouveau mandat de Donald Trump, un club politique disponible en audio sur le site internet de RRB. L'actualité dans la région. En Australie, le cyclone tropical Zelia est en voie de comblement dans la région minière de Pilbara. Après avoir touché terre à l'est de Port Hedland hier après-midi, c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Zelia était encore un système de 5e catégorie sur une échelle de 5 lorsqu'il a touché terre à l'est de Port Hedland. Dans les heures qui avaient précédé, le cyclone avait infléchi sa trajectoire au sud-est, raison pour laquelle les 16 000 habitants de Port Hedland ont plus ou moins été épargnés. Les vents destructeurs qui accompagnaient alors Zelia soufflaient cependant à plus de 300 km/h, ce qui laisse à penser qu'il a causé des dégâts considérables sur son passage. Le système est maintenant en train de s'enfoncer dans l'intérieur des terres où il continue de se combler. Il génère encore de fortes pluies et des vents violents dans des régions d'Australie occidentale fort heureusement peu peuplées. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, 7h09, on va marquer une première pause dans ce journal. Avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire, on parlera notamment de la rentrée scolaire. À tout de suite.
Boostez vos compétences professionnelles avec le diplôme d'université marketing opérationnel et stratégique de l'UNC. Une formation complète pour maîtriser tous les aspects du marketing, des bases solides aux stratégies avancées, sans oublier le web marketing. Une formation courte sur 3 mois, de février à avril 2025, avec 4 modules de 3 à 4 jours pour un apprentissage flexible. Joignez l'UNC à la rentrée du 25 février. Le diplôme d'université marketing opérationnel et stratégique de l'UNC, votre avenir commence ici. Infos pratiques sur unc.nc.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite des faux week-ends, Lana Colombo.
Et J-2 avant la rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie. Lundi, ce sont 62 660 élèves qui retrouveront le chemin des écoles, collèges et lycées partout sur le territoire.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée à prix fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Et à cette occasion, Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, tenait une conférence de presse hier matin pour présenter cette rentrée scolaire 2025. Charlotte Coulson.
Oui, une rentrée un peu particulière après une année scolaire 2024 qui aura bien évidemment été marquée par les émeutes débutées au mois de mai dernier. À deux jours du retour des élèves, mais aussi de l'ensemble de la communauté éducative dans les différents établissements scolaires, tout est prêt afin que cette rentrée 2025 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Écoutez Isabelle Champmoreau.
De manière générale, on est assez serein, à la fois, et je pense que les familles sont très attentives au climat sécuritaire. On a eu des réunions sur le sujet avec l'État, mais il n'y a pas d'alerte particulière. Il y a une vigilance qui est classique et les familles pourront voir, et nos personnels aussi, soit les gendarmes, soit la police nationale, qui fera des rondes dans les quartiers, qui sera présente et disponible. Ça, je crois que c'est un point important, mais pas d'alerte en termes de sécurité. Et puis ce qui est important aussi, c'est que chaque élève, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, aura une place en classe lundi et aura devant lui ou devant elle un professeur en classe. Nous n'avons pas de défection, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, sur les professeurs et non plus sur nos chefs d'établissement. Tout le monde est en poste.
Et Isabelle Champmoreau était accompagnée pour cette conférence de presse de Didier Vindatich, le vice-recteur, qui lui est revenu sur les grandes priorités pour cette année scolaire 2025, la réussite des élèves, mais aussi la lutte contre le décrochage scolaire.
Les grandes priorités, naturellement, ça va être de garantir aux élèves des parcours scolaires de qualité, et notamment aux élèves travailleurs, méritants, d'obtenir les diplômes dont ils ont besoin pour poursuivre leur parcours scolaire, universitaire, voire d'insertion professionnelle. La lutte contre le décrochage est une problématique complexe qui, en fait, implique l'école, mais aussi d'autres acteurs autour de l'école. Nous allons faire un travail sur la rénovation de la carte des formations professionnelles. Et nous pensons que c'est une bonne façon de réduire le décrochage scolaire. D'autres façons d'agir ont émergé ces derniers temps, c'est de trouver des dispositifs ad hoc de prise en charge de ces élèves, par exemple en créant un micro-lycée. C'est un projet que je vais explorer de très près, comme étant un dispositif permettant de suivre les élèves éprouvant des difficultés.
Était également présent hier pour cette grande conférence de presse de rentrée Yannick Lérand, la directrice de la maison de l'étudiant, et Pragash Aganadan, le directeur adjoint de la DAFE, c'est la direction du service d'État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, une direction gérée à la fois par l'État et par la Nouvelle-Calédonie qui a en charge l'enseignement agricole. Présente également Christelle Varnet, la directrice de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, qui a évoqué les grandes priorités du gouvernement pour les plus jeunes élèves.
On s'inscrit naturellement dans la continuité, j'ai envie de dire, des actions qui ont été engagées déjà en 2024 et même préalablement. Je pense à la maîtrise des fondamentaux, que ce soit l'acquisition des mathématiques et du français. On va mettre un focus cette année sur la maternelle et notamment en mathématiques. On va développer avec le vice-rectorat un plan lecture dans la continuité donc du cycle 3. Au niveau de la santé et du sport, là aussi une attention particulière sur ces activités qui sont parfois mises à l'écart quand on n'a pas terminé notre français ou nos mathématiques. La question aussi de la lutte contre les inégalités, de pouvoir s'assurer que les devoirs puissent se faire sur le temps scolaire. C'est inscrit clairement dans les programmes de la Nouvelle-Calédonie, mais là on va veiller à l'accompagnement et à ce que ce soit développé et renforcé.
Et rappelons donc que lundi, ce sont 62 660 jeunes qui feront leur rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent comprendre que la province sud soit obligée de réduire les aides scolaires en raison de la situation budgétaire créée par les émeutes. Ils ne sont que 6% à dire qu'ils ne le comprennent pas. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Actualité économique, pas de changement cette nouvelle année. L'indice des prix à la consommation continue d'augmenter. L'ISEE constate une hausse de 0,7% en janvier, après une augmentation de plus 0,6% en décembre 2024. Michael Juneski.
Cette augmentation est principalement attirée par les services, plus 0,8%, où sont compris les transports aériens et les tarifs des assurances santé, qui prennent respectivement plus 7,4% et plus 8,3%. L'augmentation des prix de l'alimentation s'accélère avec plus 1,5% en janvier après l'augmentation de 0,6% le mois dernier. La raison de cette hausse, le prix des légumes qui augmente de 11,4%. On notera l'augmentation de plus 5,7% de l'alimentation sur ces 12 derniers mois. Légère augmentation également du côté des prix de l'énergie, plus 0,4% à cause du prix de l'essence. Parallèlement, les prix des produits manufacturés diminuent de 0,3% et ceux du tabac sont stables. Sur un an, l'indice général des prix et celui hors tabac ont augmenté de plus 1,6%. Les ménages les plus modestes sont ceux qui ont le plus subi cette hausse. Sur la même période, l'indice général augmente de 2,5% et l'indice hors tabac de 2,7%.
Économie toujours, l'OPT doit recentrer sa stratégie sur la performance des métiers. C'est l'un des points mis en exergue par la Chambre territoriale des comptes, Jean-François Baudin.
Oui, lors du contrôle qu'elle a effectué et qui porte sur les années 2018 et suivantes, la CTC s'est principalement penchée sur les conditions dans lesquelles l'Office des postes et télécommunications rend les services essentiels pour le territoire dont il a la charge. Elle met trois points en exergue. Le premier concerne la poursuite du plan stratégique de 2021 qui vise à renforcer les directions métiers en tant que centre de profit. Sur ce point, la Chambre des comptes invite l'OPT à fixer des objectifs de résultats financiers par direction. Elle invite l'établissement à se rapprocher de la Nouvelle-Calédonie pour valider formellement sa stratégie ainsi que les modalités de financement des missions d'intérêt général dans un contrat d'établissement. Le deuxième point est une incitation à renforcer le management des risques. La CTC insiste notamment sur la maîtrise des risques informatiques. Elle note en effet que la sécurité du système d'information présente des lacunes en termes de gouvernance, de gestion de projet, de résilience ou de protection physique ou des droits d'accès. Un chantier dont l'OPT est bien conscient, nous a dit son directeur Thomas de Decker.
On parle du risque cyber, c'est quelque chose qui est important. On l'a vu d'ailleurs sur notre filiale au Fratel l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait fait l'objet d'une attaque. L'OPT étant l'opérateur stratégique au niveau des télécommunications, il y a un point quand même très important à s'assurer que l'OPT est bien protégé, que ses systèmes d'information sont protégés. Et donc, il y a un accent qui est mis sur la nécessité de revoir peut-être notre politique de sécurité des systèmes d'information qui est assez ancienne. Il faut qu'on la modernise. Le cadre juridique du risque cyber évolue énormément au niveau européen, au niveau national, et on va avoir des déclinaisons locales. Et donc, l'idée du rapport, c'est aussi de challenger sur l'anticipation et les investissements importants qu'il va falloir avoir pour pouvoir prendre en compte le risque cyber et le maîtriser au mieux.
Enfin, dans son dernier point, la Chambre territoriale des comptes invite l'OPT, en lien bien sûr avec le gouvernement, à mener une réflexion sur son statut en prenant en compte l'évolution de l'environnement, notamment après l'examen d'un projet de loi qui autorise l'Internet par satellite, ce qui pourrait constituer une concurrence à l'OPT. La réflexion sur le statut doit aussi porter sur les performances financières des secteurs déficitaires. En effet, les résultats annuels se dégradent entre 2018 et 2023. Le chiffre d'affaires de 23 milliards de francs stagne, alors que l'excédent brut d'exploitation recule en raison notamment d'une hausse de 7% des charges de personnel. Cet audit est toutefois un document précieux, nous a dit Thomas de Decker, car il ouvre des pistes.
C'est et pour l'OPT et pour la Nouvelle-Calédonie un audit qui est très intéressant parce qu'il a des conséquences très pragmatiques pour nous qu'on doit mettre en œuvre, hein, notamment sur la maîtrise des risques. Après, sur le pilotage de cet établissement et la stratégie que peut avoir la Nouvelle-Calédonie sur cet outil hein, parce que l'OPT est un outil de la Nouvelle-Calédonie, de développement économique. Il y a des questions qui sont intéressantes et qu'il faudra à un moment se poser. Donc, il débrousse le chemin, mais reste à la Nouvelle-Calédonie à tracer la route, j'ai envie de dire.
L'OPT a déjà travaillé sur ce rapport de la Chambre territoriale des comptes lors de son dernier conseil d'administration réuni mercredi dernier.
En bref, le Betticho annonce son planning des prochaines rotations en raison d'une forte houle aujourd'hui. Le trajet vers l'île des Pins est reporté au 19 février. Il s'agira d'une rotation express effectuée dans la journée. Demain et lundi, ce sera une rotation spéciale sur deux jours qui reliera Nouméa à Ouvéa avec une escale à Lifou. Tous les billets concernés qui ont été annulés à la date du 5 février ont été reportés sur ce nouveau voyage. Une permanence de vente de billets sera réalisée demain de 18h à 20h à l'hôtel Le Beaupré à Ouvéa. Notez qu'en raison de tous ces changements, aucun fret ne sera accepté au départ et au retour de Lifou, la priorité étant donnée à la population d'Ouvéa. Enfin, mardi prochain, le Betticho passera par Lifou et Marais. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du Betticho. Côté festif, plusieurs événements sont organisés pour ce dernier week-end des grandes vacances. À commencer, Charlotte Coulson, par une journée porte ouverte aujourd'hui à l'Art Factory.
Dès 9h, les Calédoniens pourront se rendre à l'immeuble Cheval, au 5 rue Jean Jaurès à Nouméa, pour découvrir cette galerie d'art qui propose également des concerts, des spectacles et toutes sortes d'événements créatifs. Une carte membre donnant accès à des avantages uniques sera également dévoilée.
À Nouméa, c'est une brocante un peu particulière qui se déroulera demain en plein centre-ville, au 35 Foch. La quatrième édition de la brocante tournoi spécial One Piece et Pokémon est organisée.
Un rendez-vous que ne manqueront pas les passionnés de manga. La brocante est organisée de 9h à 17h avec en vente des objets uniques liés à ces licences à succès. Puis de 14h à 17h, place au tournoi de cartes et test de connaissances pour savoir si vous êtes un vrai pirate ou maître Pokémon.
À Nouméa toujours, des lectures à haute voix seront proposées par le comité Livre Mon ami au Quai Ferry.
L'occasion de partager un moment en famille et de découvrir la sélection 2025 du concours Livre Mon ami, tout en dégustant des spécialités, puisque cela se passe chez Mr Coffee, un événement organisé de 16h à 17h30.
Et merci Charlotte Coulson. 7h22, dernière pause dans ce journal avant de voir tout le sport.
Taneo fait sa rentrée avec vous. Les bus circuleront à partir du lundi 10 février avec des nouveautés. Des lignes adaptées à vos besoins en déplacement, une offre concentrée sur les heures de pointe, le retour des plafonds tarifaires pour un porte-monnaie transport maîtrisé. Retrouvez sur le site taneo.nc le plan des lignes, les horaires et les nouveaux tarifs. À très vite sur nos lignes.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite d'info soir, d'info week-end, pardon, mais c'est avec vous, Lana Colombo.
Et elle a une de l'actualité sportive. Un titre de championne du monde pour la Française Justine Brezaz-Boucher en biathlon, Michael Juneski.
À 28 ans, elle s'est imposée sur l'épreuve du sprint sur une distance de 7,5 km dans ses mondiaux sur les pistes suisses. Elle a devancé l'Allemande Franziska Preuss et la Finlandaise Suvi Minkinen. Pour Justine Brezaz-Boucher, la plus grande fierté, c'est d'avoir pu décrocher ce sacre devant sa famille qui a fait le déplacement.
J'ai entendu donc Julien, mon mari et ma fille étaient sur le bord de la piste quelques mètres après le départ et j'ai entendu ma fille pleurer toute la course parce qu'elle devait avoir froid et que ça la saoulait. C'est une chance énorme de pouvoir partager ça avec ses proches, surtout qu'ils sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est eux qui me supportent en permanence, donc j'étais très ému de pouvoir partager ça avec eux.
Et toujours du côté des Françaises, on signalera que Lou Jean Monod s'est classée 6e et Julia Simon 7e de cette épreuve. C'est la deuxième médaille d'or pour les Bleus dans ces mondiaux, après la victoire de l'équipe de France sur le relais mixte. Les championnats du monde de biathlon qui continuent en Suisse avec la nuit prochaine à suivre le sprint messieurs.
On passe au sport collectif avec du football et place ce week-end à la 22e journée de Ligue 1.
Et ça commence par une confrontation entre Brest et Auxerre. Les Bretons de Brest, actuellement 8e du classement, reçoivent les Auxerrois qui sont 11e, mais dans une deuxième partie de tableau encore très serrée. Auxerre ne compte que 6 points d'avance sur la zone rouge et se bat donc encore mathématiquement pour le maintien. On joue depuis 37 minutes et le score est de 1 but partout entre les les deux formations. Demain, à ne pas manquer, un duel des extrêmes. Les Marseillais, deuxième, accueilleront l'AS Saint-Étienne, 16e du championnat de France. Coup d'envoi à 3h pour nous. À 5h, nouvelle mission pour les Nantais d'Antoine Comboiré. Les Canaries s'envoleront pour le Rocher où ils défieront l'AS Monaco, 4e de la Ligue 1. Enfin, à 7h05, Toulouse accueillera le leader, le Paris Saint-Germain.
En rugby, pas de tournoi destination ce week-end, mais les clubs du top 14 joueront la 16e journée du championnat de France.
Et ça commencera par le match Bayonne-Union Bordeaux-Bègle ce soir dès minuit 30. Deux équipes qui visent les phases finales. L'UBB est co-leader du championnat de France et l'Aviron Bayonnais 4e. À suivre à partir de 2h30 en simultané, Lyon-La Rochelle, Racing 92 Vannes, Stade Français Pau et Perpignan-Castres. Et à 7h, Montpellier accueillera Toulon. En clôture, lundi, le Stade Toulousain ira défier l'AS Clermont.
Du tennis avec Hugo Humbert en demi-finale du tournoi de Marseille.
Le Français tête de série numéro 2 a battu l'Italien Lorenzo Sonego en deux manches, 6-4, 6-4. Il affrontera le Belge Zizou Bergs dans le dernier carré. Le Russe Daniel Medvedev, tête de série numéro 1, s'est aussi imposé face à l'Allemand Jan Lennard Struff, 6-3, 6-2.
Les sports mécaniques, c'est la suite du rallye de Suède.
Ouais, la deuxième manche du championnat du monde WRC, Ott Tänak, l'Estonien sur Hyundai, est en tête du classement. C'est très serré à l'issue des 7 premières spéciales avec 7 pilotes qui se tiennent en moins de 10 secondes. Le Français Adrien Fourmeau, également sur Hyundai, est quatrième. En tout, 18 spéciales sont au programme tout au long du week-end.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Michael, on passe au sport côté calédonien avec de nouvelles et belles performances de nos athlètes hors du territoire.
En judo, le jeune Paolo Taukaofauli continue d'engranger de l'expérience avec une 7e place pour son premier tournoi international cadet sous les couleurs de l'équipe de France. C'était en Italie. Les Océanias de cyclisme sur piste continuent en Australie. Je rappelle que le jeune calédonien Kéryl Moutry a déjà brillé avec une 3e place sur la course au point chez les moins de 19 ans face aux Australiens et aux Néo-Zélandais. Luis Chavitz a également réussi à se classer 6e des qualifications du contre-la-montre, une compétition qui continue à Brisbane en badminton. Après les compétitions en équipe, ce sont les Océaniens en individuel qui se jouent en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Pas de Calédoniens pour le moment dans les tableaux en quart de finale malheureusement. Et puis un mot de sport sur le territoire avec le monde de la voile qui fait sa rentrée ce week-end. Une série de régates prévues, le prologue du championnat de croiseurs Sirius Solar organisé par le CNC tout au long de ces deux jours. Donc premier départ prévu aujourd'hui à 13h30 au large de la baie des Citrons.
Merci beaucoup, Mickaël Juneski. 7h27, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors Nicolas, quelle sera la météo? On peut voir que le soleil pointe le bout de son nez.
Oui, ça va arriver doucement dans la journée. Alors on va commencer avec ce matin aux extrêmes nord et sud sur l'est et les loyautés. Quelques averses persisteront sous un ciel souvent très nuageux. Sur la façade ouest, le temps s'améliorera nettement avec un large soleil, même si quelques gouttes seront encore possibles par endroits. Le vent d'est sud-est à sud-est soufflera généralement de 15 à 20 nœuds, localement variable 10 nœuds sur le nord-ouest et les loyautés. Cet après-midi, on conservera des nuages et des averses passagères sur l'est aux loyautés, aux extrêmes nord et sud. Le soleil résistera au début sur l'ouest, puis en fin d'après-midi, les débordements gagneront du terrain en pouvant apporter des ondées localement. Le vent d'est sud-est se maintiendra de 15 à 20 nœuds temporairement, de 20 à 25 nœuds sur le sud de la Grande Terre. Il restera plus variable et faible sur l'extrême nord et aux loyautés. Les températures de la journée seront généralement stables. Elles varieront de 29 à 32 degrés. Lana.